Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Marie-Sophie et son mari François quittant Gaète au lendemain de la capitulation de leur armée, écrasée par les chemises rouges de Garibaldi. Abandonné par les souverains d'Europe, l'antique royaume méridional est tombé. Seconde partie, un amour de zouave. François et Marie-Sophie viennent de quitter leur forteresse en ruine, mais aussi et pour toujours leur pays. Ils voguent vers les états pontificaux qui sont prêts à les accueillir. François II, en effet, n'est pas seulement le roi de Naples et des deux Siciles. Il possède le titre de prince romain et il est propriétaire du palais Farnèse à Rome. Nul ne pourra l'empêcher d'aller se reposer dans la cité papale. Leur bateau, la Mouette, vient d'accoster à Terracine, le port des états pontificaux qui jouxte la frontière napolitaine. Leur majesté et une centaine de personnes débarquent sur les quais sous les cris hostiles de patriotes qui affichent leur joie et portent à la ronde leur cocarde tricolore. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Pie IX arrive pour les saluer à son tour. Il trouve rois, reines, princes et princesses prosternés au seuil du grand escalier du Quirinal. Il relève paternellement Marie-Sophie, qui porte une robe écarlate, et conduit les souverains au balcon. Après l'accueil sous les huées, les voici acclamés. À Rome, en effet, elle trouve beaucoup de ses fidèles, mais aussi de nouveaux enthousiastes. L'héroïne d'à peine 20 ans vient d'entrer vivante dans la légende. Tout ce qu'il y a de catholique et de conservateur en Europe lui rend hommage en récompense de son courage et de sa grandeur d'âme. Son portrait s'affiche dans les vitrines, celui d'une femme aux traits magnifiques, beauté, éperonnée, coiffée d'un feutre, la cravache à la main, avec sur son bras un pan de sa jupe d'Amazone, le tout rappelant les héroïnes de la Fronde. Ces photos se vendent par milliers, bien plus que celles de Garibaldi. L'enthousiasme grandit chaque jour pour l'irrésistible bavaroise. Tout le monde l'aime et lui fait accueil. Elle dispute les titres de la presse internationale à Sissi et l'impératrice Eugénie. Une ombre va pourtant entacher cette apparente renaissance. À ses côtés, la belle-mère de Marie-Sophie va se révéler une autorité austère, dictatoriale. Au-delà de ces rivalités de pouvoir, le tempérament des deux femmes, leurs âges, leur éducation, tout les dresse face à face. La douairière est intolérante à toute forme de plaisir, partageant ses journées entre une dévotion de tous les instants et des visites aux pauvres. Sa bru, sa belle-fille, à l'inverse, veut profiter de Rome pour ressusciter la vie joyeuse et douce qui a été la sienne jusqu'au moment où on lui a placé une couronne sur la tête. Elle aimerait remplir son nouveau palais de chiens, de canaris, de perroquets, de rires, de jeunesse et de gaieté, et goûter au tourbillon de la vie mondaine, et pourquoi pas même se laisser admirer par les jeunes Romains. Marie-Sophie, en effet, ne se déroberait guère au regard masculin, ne cessant de s'étonner de ses pouvoirs sur les hommes. Bientôt, malheureusement, l'empressement vis-à-vis du roi et de la reine s'estompe à mesure que certains États européens commencent à reconnaître Victor Emmanuel, usurpateur du royaume de Naples. Alors on va se mettre à démolir la légende poétique de la résistante, l'héroïne de Gaète. On sait comment, chez les grands de ce monde, la chute est la compagne obligée de la gloire. Marie-Sophie, y est radulée, devient sujet de moquerie. On va railler les costumes d'Amazone et l'allure puérilement soldatesque de l'héroïne des remparts de Gaète, qui ne se montre plus, à en croire ses détracteurs, que montant à cheval, chassant, tirant au pistolet et se livrant à toutes sortes d'excentricités. Un sommet d'abjection va être atteint lorsqu'Antonio Diotta Levi et Cosenza Vaccari, un ancien soldat pontifical et son épouse, vont répandre des photos trafiquées. Des photos sur lesquelles on aperçoit Marie-Sophie batifolée avec un zouave pontifical ou se prélasser dans un bain en pleine séance de débauche. Il en existerait une soixantaine d'exemplaires. 15 auraient été envoyés à Turin, 10 à Paris et une trentaine dans Rome, notamment à François II et au cardinal Antonelli. Le scandale en Europe est monumental. Les coupables sont attrapés, jugés et, à la surprise générale, libérés. Marie-Sophie doit endurer la honte, l'ironie des regards, les railleries, les bons mots qui s'échappent peu à peu de toutes les bouches, mais surtout la crainte d'avoir été démasquée. Car si ces photos sont de grossiers montages, la nature de l'attaque, elle, a été très bien choisie. Costanza, la malveillante fouineuse, et son mari ont visé juste. À chaque nouvel article sur cette affaire, le cœur de la reine résonne de coups sourds, continus, réguliers, comme si dans un lointain confus, une cloche funèbre sonnait le glas de ses amours. Car au milieu de ce cortège de déconvenues, au cœur du désespoir, Marie-Sophie a bel et bien été pour la première fois de sa vie frappée par la flèche de l'amour. Depuis peu de temps, en effet, elle aime un zouave. Cet amour, elle l'a enfoui comme un secret intime dans le plus profond de son cœur. Ce zouave s'appelle Emmanuel et ce prénom est devenu pour elle la joie suprême, le bonheur sans limite. Il est vrai qu'avec François II, son époux légitime, la vie de couple est plutôt ennuyeuse. Le mariage n'a même jamais été consommé. La raison en serait que le roi, affecté d'une pathologie génitale, un phimosis, serait incapable d'avoir un rapport amoureux. Et puis, sa piété excessive en fait un être austère, plus préoccupé de réciter son chapelet que de courtiser sa femme. Alors ce zouave pontifical, qui est-il, cet homme qui va conquérir le cœur de Marie-Sophie? Il se nomme Emmanuel de Lavaïs-Châteaubourg. Et il est l'un de ces nobles volontaires venus étoffer la force militaire constituée pour protéger le pape. Par sa branche paternelle, Emmanuel est un enfant de la Bretagne catholique et royaliste, terre de tradition et de foi, cette même Bretagne qui va fournir des bataillons de zouaves prêts à s'immoler pour la cause du Saint-Père. Depuis les marches du palais pontifical, Emmanuel voit souvent passer Marie-Sophie. Il a tressailli en comprenant que la jeune beauté qu'il distinguait au loin était la glorieuse héroïne de Gaète. Elle tranche sur la cendre de son environnement. Les autres membres de la cour napolitaine offrent l'aspect d'un tas de feuilles mortes. Jusque-là, son cœur est resté rebelle au piège que tend l'amour, mais au premier regard de l'héroïne de Gaète, il est comme pétrifié par une admiration qu'il ne se rappelle point avoir jamais éprouvé pour personne. Elle n'a que 20 ans, mais avec sa nature précoce, sa grande taille et son profil de camée, elle atteint déjà l'apogée de sa beauté. Il est captivé par cette femme autoritaire et tendre dont chaque mouvement lui est imprévu. L'ambition du jeune Français avait été de souffrir pour l'Église et de mourir pour Dieu. Et d'un coup, d'un seul, cette pure flamme du dévouement, allumée au cœur de ses 20 ans, va se reporter tout entière sur la reine soldat. Quant à Marie-Sophie, après avoir été abreuvée de mécompte dans son morne mariage, son zouave, Emmanuel, va devenir sa récompense adorée et la frénésie de son cœur. Elle passera ses journées à guetter les messages d'Emmanuel, à tourner dans le cercle de ses rêves pour imaginer leur prochaine entrevue. Telle va devenir sa vie. Finalement, le torrent passionnel qui emporte les deux amants va porter un fruit destiné à leur survivre. Oui, Marie-Sophie est enceinte. Le scandale que constitue un enfant adultère contraint la famille à envoyer Marie-Sophie accoucher hors d'Italie, dans un couvent d'Augsbourg, le 24 novembre 1862. C'est une petite fille qui vient au monde. Marie-Sophie la nomme Daisy. Emmanuel, qui a entre-temps demandé congé de sa charge de zouave, décide de quitter Rome et d'entreprendre un long périple vers la Bavière pour retrouver Marie-Sophie et découvrir leur enfant. Sa route vers Augsbourg tient de l'épopée. Son voyage en chemin de fer, les espions des lagards qui ne le quittent pas de l'œil et le suivent jusqu'à l'embarcadère, la locomotive qui siffle le départ, ses voisins indifférents, regardant immobiles les bribes de paysage, l'apparition soudaine dans son compartiment d'un sbire inquiétant, l'avertissant qu'il sera arrêté dès la frontière, sa fuite par un autre train pour échapper à ce Cerbère, puis ses jours et ses nuits de marche en plein hiver, sans boussole, se guidant avec les étoiles, la peur de la police du roi de Bavière qu'il sait à ses trousses, l'incertitude du gîte, ses haltes dans des fermes ou dans les sombres profondeurs des forêts, quand accablé par le froid, tremblant comme un grelot, il songe pour se donner du courage au sentiment que sa maîtresse lui a juré tant de fois. Là, il erre d'église en église jusqu'à la nuit pour ne pas être repéré. Puis il parvient à obtenir une audience chez Louis, le frère de Marie-Sophie, dans sa résidence de la Maximilianstrasse, non loin de la basilique Saint-Ulrich et Saint-Affre. En le voyant apparaître avec son feutre usé, sa barbe en broussaille et ses vêtements élimés, on croit voir un revenant d'outre-tombe. Reçu par Louis, il lui dépeint sa torture, fait appel à sa compassion. Il veut revoir Marie-Sophie, il doit la revoir. Voir la reine ? Certainement pas. Les affaires d'État ne sauraient se compliquer d'affaires de cœur. La présence de la souveraine en Bavière est une question de haute politique dans laquelle nul ne se laissera arracher la moindre concession. Le frère de Marie-Sophie, qui se défend peu de ses émotions, est néanmoins touché par la noblesse des sentiments de Lavaïs, son passé au service du Saint-Père et par son infortune. À la nuit tombée, dans la plus grande discrétion, il fait escorter le Français à un quart d'heure de marche du couvent Saint-Ursule, au domicile du professeur Max Hutler. C'est chez cet homme, ami du frère de Marie-Sophie, que Daisy a été cachée. Devant l'enfant qui dort là dans son berceau, souriant à son rêve, Emmanuel tombe à genoux, hors d'état de prononcer une parole. Puis avec beaucoup d'adresse et de facilité, comme si Dieu avait mis chez lui la science infuse de manier les nourrissons, il prend dans ses bras la petite créature enrubannée de dentelle. Il reste auprès d'elle toute la nuit. C'est la reine qui, la mort dans l'âme, va se résoudre d'elle-même à sacrifier sa liberté, au devoir, contre la garantie que l'enfant soit élevé par Emmanuel. La petite sera envoyée à son père qui pourra alors l'aimer, la protéger et faire son bonheur. Dans le cas contraire, Daisy terminera comme une petite fille perdue dans un orphelinat ou ailleurs. L'enfant martyr deviendra son remords éternel. De même qu'Emmanuel, privé de descendance par son seul entêtement. La reine à Rome contre Daisy chez son père. Rentrée en Italie, la reine va vivre très retirée. Réconciliée avec son époux, elle va obtenir de lui qu'il accepte l'opération chirurgicale qui lui permettra d'avoir des relations normales avec elle. Une fille naîtra, qui hélas mourra au berceau. Emmanuel, lui, va bientôt expier dans la mort ses amours adultères. 5 ans après la naissance de Daisy, il s'éteint à Cannes, le 8 avril 1868. Marie-Sophie a-t-elle revu son amant avant sa disparition? Le fait est que 2 semaines avant, elle a pu faire une halte à Cannes où il réside, avant de rejoindre sa sœur Sissi qui l'attend en Hongrie. À compter de ce jour, Marie-Sophie ne sera plus jamais la même. Emmanuel de Lavaïs restera le rêve, l'enchantement et le malheur de sa vie. Et elle sera d'autant plus affligée qu'elle se sentira jusqu'à sa mort coupable de l'avoir entraînée dans l'abîme. Marie-Sophie s'éteint en 1925 à l'âge de 84 ans. Son corps est inhumé à Rome auprès de celui de son époux. En 1984, les deux sont ramenés dans la nécropole séculaire des rois des deux Siciles, la basilique Santa Chiara de Naples. C'est la fin de ce double épisode consacré à Marie-Sophie, reine de Naples, sœur de Sissi. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. À très bientôt.